rendez-vous des entrepreneurs tous les lundis à midi et en rediffusion les samedis à 8h et à 13h sur Radio Arverne.
Merci d'être fidèle au rendez-vous des entrepreneurs où je reçois aujourd'hui Laurent Laporte, dirigeant de Braincube. Laurent, bonjour.
Bonjour Marie-Luce.
Alors nous sommes confinement oblige actuellement, pas en studio et j'en suis désolée, toutes nos excuses à nos auditeurs donc s'il y a quelques perturbations, mais ça ne va pas vous empêcher Laurent de nous raconter votre histoire et de nous expliquer comment, de ce démarrage, vous êtes aujourd'hui à la tête de cette entreprise qui rayonne au plan mondial. Alors, racontez-nous votre parcours, Laurent.
Alors, moi, je suis né en Auvergne, à Chamalières. J'ai fait un premier parcours jusqu'au bac à Clermont-Ferrand, principalement à Jeanne d'Arc. Et puis après, j'ai décidé de m'orienter vers des études d'ingénieur. J'ai fait une classe préparatoire à Montluçon, toujours un peu dans la région Auvergne. Et puis derrière, je suis parti dans une grande école qui s'appelle l'École nationale supérieure des arts et métiers, où j'ai eu la chance de rester 2 ans à Bordeaux, 1 année à Paris. Suite à ça, j'ai rejoint la Marine nationale. J'ai été officier de la Marine nationale pendant 1 an et demi à Toulon, ce qui était très agréable puisque j'ai pu découvrir un univers très différent de l'univers étudiant. Et puis j'ai cherché du travail et rapidement je suis revenu en Auvergne. J'ai travaillé pour une entreprise qui s'appelait Sagem et qui est devenue Safran aujourd'hui, où j'ai eu plusieurs missions qui m'ont emmené dans différents pays. J'ai travaillé en France dans plusieurs sites, j'ai travaillé en Italie, j'ai travaillé aux États-Unis, toujours dans les ateliers de fabrication. Donc je suis plutôt quelqu'un qui aime la production, produire des pièces. Et lors de toutes ces aventures professionnelles, j'ai croisé 2 personnes importantes dans ma vie, que sont mes 2 partenaires actuels avec qui on a créé Braincube, Sylvain Rubat-Dumérac, qui dès 2005 a ouvert des discussions sur l'idée d'utiliser Internet pour proposer des services à l'industrie, et puis Hélène Olfe-Gallière qui nous a rejoint en 2007. Et c'est à 3 qu'on a créé Braincube, et on a décidé en fait d'installer Braincube en Auvergne et à l'endroit où on vivait, c'est-à-dire à Issoire, dans la ville la plus industrielle de France en pourcentage de sa population professionnelle.
Et alors cette histoire donc va démarrer à Issoire, et quel va être l'objectif de l'entreprise?
Donc on a été des spécialistes en fait de la production, mais on se rendait bien compte que produire, c'est lutter contre plein d'incidents, plein d'événements, plein de variabilités en fait qui sont très pénibles. Il peut se passer des choses sur les matières premières, il peut se passer de la dégradation sur les équipements de production, il peut y avoir des erreurs humaines, des consignes moins bien respectées, il peut y avoir des incompréhensions. C'est un univers assez compliqué, mais cet univers depuis une trentaine d'années a fait une première révolution puisqu'il s'est automatisé. Les machines se sont dotées de petits ordinateurs qui commandent en fait la machine, et donc on a utilisé cette opportunité pour récupérer en fait les données et pour se dire si les machines génèrent de la donnée et les utilisent pour commander les actions, probablement que ces données vont être intéressantes si on est capable de les analyser pour mieux comprendre ce qu'il se passe et donc répondre à des questions récurrentes qui nous arrivaient. Et ainsi, on a créé Braincube pour s'organiser, pour collecter ces données et développer des applications qui permettent aux gens qui travaillent dans les usines de production de s'équiper, comme nous on l'a fait dans notre vie avec des applications sur notre téléphone portable, de s'équiper de technologies très complexes, très avancées, à travers des interfaces simples qui leur permettent tous les jours de réduire leur consommation d'énergie, fabriquer des produits de meilleure qualité, éliminer des défauts, des crises, gagner en productivité. C'est ça notre mission, c'est fabriquer mieux, fabriquer moins cher, fabriquer plus vite.
Et du coup, les cibles sont, alors je ne suppose pas le particulier, vous parlez d'applications sur les téléphones, mais ça va être qui? Ça va être de la grosse industrie? Ça va être de la PME? Qui est sensible à cette attente?
Alors, en 2007, quand on a créé, on était très en avance sur le marché. Donc, nous, on s'est posé la question de où pouvions-nous trouver en fait, des univers où il y ait un certain niveau de complexité, du gain, du progrès à faire et beaucoup de données. Et on s'est orienté vers des entreprises de process continu très automatisées, donc la fabrication de papier, la fabrication de verre, de métal, donc plutôt des très grandes entreprises, qui étaient effectivement en avance en termes de capacité à créer de la donnée, à la collecter. Et ça reste aujourd'hui notre ADN. On travaille avec des multinationales, des grands groupes partout dans le monde, principalement en Europe, aux États-Unis et au Brésil. On va avoir à peu près 250 sites de production qui utilisent BrainCube. Mais avec le temps, tout le monde a commencé à entendre parler de l'industrie du futur, de la transformation digitale, et on se rend compte qu'aujourd'hui, ce qu'on propose à ces grands groupes, qu'ils déploient sur toutes les usines, et nos applications sont utilisées par les managers, par le staff technique ou par les opérateurs. Donc là, on retrouve un peu l'idée d'utiliser des applications comme dans sa vie de tous les jours, puisqu'en fait, on va leur fournir des applications à travers des tablettes, des téléphones ou des ordinateurs qui sont aussi simples à utiliser que quand on utilise nos petites applications. Mais ben, ce besoin-là est en train d'arriver pour tout le monde. Aujourd'hui, les PME, les ETI sont aussi équipés de machines automatisées, ont aussi parfois des problèmes complexes à régler, ont aussi de la productivité à aller chercher, de la compétitivité. Et donc, c'est un marché qui est pour nous plus difficile à atteindre parce qu'il faut avoir une force commerciale importante pour aller démarcher de ces gens-là. Donc, on le fait à travers des partenariats avec des sociétés comme Siemens, par exemple. On a créé un produit où vous avez les solutions BrainCube qui sont installées sur du matériel Siemens et distribuées par les réseaux Siemens. Donc, on commence à toucher des belles ETI et quelques PME.
Et comment est-ce qu'une entreprise, lorsqu'elle arrive vers vous, va vous orienter vers tel ou tel besoin au sein de sa production? C'est un audit qui est fait en amont, enfin, sans rien dévoiler, bien sûr.
Non, bien sûr, mais il y a toujours une discussion. En fait, les industriels ont une vision de la situation idéale, en fait, là où ils aimeraient aller. Est-ce qu'ils doivent à tout prix améliorer leurs produits pour avoir un produit supérieur à la concurrence sur le marché? Mais c'est difficile. Ou est-ce qu'ils ont un problème de coût? Ils savent qu'ils dans leur process de production, ils génèrent trop de déchets, par exemple, ou ils consomment trop d'énergie. Donc, ils connaissent leurs problématiques. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va d'abord caractériser ces problématiques en regardant quel est l'état. Est-ce que, quand ils génèrent des défauts, est-ce qu'il y a des journées où ils génèrent très peu de défauts et puis d'autres périodes de l'année ou de la semaine où ils génèrent plus de défauts? Est-ce qu'il y a de la variabilité? S'il y a de la variabilité sur leur performance, c'est qu'il y a un manque de maîtrise. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on n'a pas encore identifié et qu'on n'a pas sous contrôle, pour parler les termes des gens de fabrication. Et donc, c'est là où les données vont nous permettre de comparer des très bonnes situations à des situations qui ne sont pas les situations attendues, surprenantes, on va dire, ce qu'on peut appeler des crises ou des défauts. Et en fait, le potentiel de progrès est dans la maîtrise de cette variabilité. Si vous consommez plus ou moins 15% d'énergie pour fabriquer le même produit tous les jours, ben, votre potentiel, c'est de gagner 15% d'énergie. Voilà, et on utilise tout le temps cette comparaison entre ce qu'on aimerait faire, l'idéal, ce qu'on est capable de faire au mieux, versus les périodes où on est déçu par notre performance. On parle beaucoup d'analogie avec le sport, puisque nous, on travaille un petit peu avec le monde du sportif, et entre autres, on est un partenaire depuis 7 ou 8 ans de l'ASM. On va retrouver la même chose. Les joueurs de l'ASM peuvent faire un match où on est déçu par une partie de leur performance. Ils ont fait tomber des ballons, ils ont raté des plaquages, ils ont perdu le match, ainsi de suite. Mais ils font aussi des matchs très réussis. En fait, c'est la comparaison entre les actions et les matchs qui permet d'identifier avec le staff, en fait, des choses qu'on réussit ou des conditions de réussite ou des choses où on a des difficultés. Et donc, ça leur donne un plan de travail pour progresser. Dans les ateliers de production, c'est la même chose. Les données leur permettent de révéler des initiatives qui sont valorisées en disant, tiens, si tu fais ça, tu vas diviser par 3 tes défauts. Si tu fais ça, tu vas gagner 5% sur ton énergie. Et donc, évidemment, c'est les motifs à mettre en œuvre tout ça et c'est ce qui permet de faire du progrès continu.
Ça veut dire que vous les poussez à l'excellence permanente?
Oui, on les aide en fait dans leur démarche d'amélioration continue, hein, c'est ce progrès permanent qu'on cherche à faire. En fait, on va les aider à réaliser ça eux-mêmes en utilisant ces applications. Nous, on va venir installer, on va venir les former, on va venir leur donner un peu de conseils au départ pour les aider à transformer leurs habitudes de travail. Mais petit à petit, les applications, comme dans notre vie vont venir leur quotidien. Et ils vont se rendre compte qu'au lieu de faire une réunion où tout le monde échange son avis, par exemple, sur un problème technique, on va d'abord commencer la réunion par objectiver ce problème technique, regarder ce qui s'est réellement passé, lancer une analyse, et en fait, on va passer plus de temps à choisir les actions qu'on va mettre en place issues de ce que les données nous disent, plutôt qu'à débattre pour essayer de savoir qui va avoir raison et qu'est-ce qu'on va essayer comme test. On va sortir de ce mode, j'ai une idée, on va l'essayer. On va aller plutôt vers un mode où on a identifié que si on baisse un peu la température et qu'on augmente un peu la pression, on ne devrait plus générer ce phénomène. Voilà, donc on change vraiment la façon dont les gens travaillent et en permanence, ils sont en train de chercher cette optimisation, ce progrès. Et oui, on les emmène de plus en plus vers l'excellence.
Et du coup, est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi une démarche pédagogique de votre part ? Parce que quelque part, il doit quand même y avoir quelques freins au changement derrière tout ça.
Oui, bien sûr. Comme toute nouvelle technologie, l'acceptabilité sociale n'est pas garantie. Si vous venez poser un robot à côté de quelqu'un dont c'est le métier, la première chose qu'il va dire, c'est est-ce qu'il me remplace, quoi, et est-ce que je suis inutile ? Non, on va souvent mettre des robots, et c'est pas notre métier, mais à des endroits où c'est dangereux, où il faut aller très vite, enfin, des choses qui vont effectivement remplacer l'homme dans des situations où on ne souhaite pas forcément aller. Pour les données, nous sommes dans le monde de la décision, c'est-à-dire qu'on va aider les gens à prendre des meilleures décisions. Mais on va les aider à le faire parce qu'on va avoir des informations objectives grâce aux données qui ont été générées pour les aider à prendre une décision. Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'un expert qui a du savoir, s'il utilise son savoir et qu'il le challenge avec les données, il va progresser plus vite. Donc oui, il faut mettre en route cette démarche de « on va prendre des décisions différentes ». Oui, il faut donner confiance aux gens que ça va leur apporter, mais au final, ils règlent des problèmes parfois qui étaient endémiques, qui vont disparaître. Ils sont moins sous pression pour trouver des solutions de progrès. Ils apprennent vite et ils règlent un problème fondamental qui est la nouvelle génération. On a une génération de jeunes travailleurs qui arrivent dans les usines qui n'ont pas pour vocation de rester, comme on a connu, pendant 30 ans dans la même usine et devenir des experts. Et donc, quand vous avez des gens qui vont rester 3 ans, la rapidité à laquelle vous les amenez au bon niveau, leur capacité à apprendre très très vite, elle est critique, parce que s'ils mettent un an à apprendre, ils ne sont pas très rentables, et s'ils s'en vont au bout de 2 ans, bon, tout ça, c'est à refaire. Mais cette nouvelle génération a l'habitude d'utiliser des applications et est à l'aise dans le monde du numérique. Donc, en fait, on va aider aussi les entreprises industrielles à régler ce problème de comment attirer des gens, comment les former rapidement, comment faire que ces gens deviennent, en fait, sans l'expérience de la personne qui a vécu 30 ans, comment ils peuvent être aussi performants rapidement dans des prises de décision qui concernent la performance de l'usine.
Alors, on va poursuivre dans quelques minutes, Laurent, si vous le voulez bien, après une pause que nous allons marquer, sur cette dimension justement d'analyse, de partage, mais aussi peut-être de transmission et d'anecdotes, parce que je suis sûre que vous en avez quelques-unes à nous faire partager. Alors, qu'est-ce que vous avez eu envie de faire écouter à nos auditeurs sur Radio Arverne pendant cette pause musicale ?
Écoutez, je suis très sensible à la situation économique actuelle à cause de la pandémie et pas mal de choses, mais derrière tout ça, on se rend bien compte que la base de tout ça, le fondement, c'est l'écologie et on devrait tous être très concernés. Peut-être que cette pandémie vient justement de notre irrespect de la nature. Donc je vous propose d'écouter une chanson de Renaud qui s'appelle « Fatigué ». Qui date des années 80 et qui déjà exprimait en fait ce ras-le-bol sur mais est-ce qu'on respecte bien les baleines, les oiseaux, est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de quelque chose qui est fondamental, qui est la nature, qui nous héberge. Et je trouve que c'est un texte qui est très beau, qui était la dernière chanson d'un de ses albums et qui est assez philosophique dans cette approche. Et donc voilà, je vous propose ce morceau aujourd'hui.
Allez, on va l'écouter. Certes, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, mais on va l'écouter. On va l'écouter parce que vous avez raison, elle est vraiment prégnante actuellement. Ne nous quittez pas sur Radio Arverne, nous nous retrouvons dans quelques minutes.
Jamais une statue ne sera assez grande pour dépasser la cime du moindre peuplier. Et les arbres ont le cœur infiniment plus tendre que celui des hommes qui les ont plantés. Toucher la sagesse qui ne viendra jamais. Je changerai la sève du premier olivier contre mon sang impur d'être civilisé. Responsable anonyme de tout le sang versé. Fatigué, fatigué, fatigué du mensonge et de la vérité. Que je croyais si belle, que je voulais aimer. Et qui est si cruel que je m'y suis brûlé. Fatigué.
Rendez-vous des entrepreneurs tous les lundis à midi et en rediffusion les samedis à 8h et à 13h sur Radio Arverne.
Sacré message, Laurent, qu'on vient d'écouter avec Renaud qui nous exprimait il y a déjà presque 40 ans que cette démarche et cet engagement. Et cet engagement, pour vous, c'est quelque chose qui est très fort. Alors, on va y revenir. Je voudrais qu'on rebalaye rapidement cette histoire de Brain Cube depuis 2007 à Issoire, et toujours à Issoire, hein. Aucune sirène ne vous a emporté vers d'autres lieux. Et puis aussi cet engagement qui est très fort au sein de l'entreprise sur le territoire régional. Brain Cube d'abord.
Alors Brain Cube, oui, créé à Troyes en 2007. Aujourd'hui, Brain Cube, c'est 150 personnes. Il y en a 110 en France, 90 sur Issoire, 25 personnes aux États-Unis, 15 au Brésil, des clients dans une quarantaine de pays sur tous les continents. On va réaliser cette année probablement quelque chose comme 15 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une croissance qui en moyenne est de 25% depuis la création. On a eu la chance en 2018 de lever des fonds pour accélérer justement notre développement. On a levé 12 millions d'euros auprès d'investisseurs américains, allemands et français. Et donc BreakCube est une société ambitieuse puisque son marché est en train de s'ouvrir. La transformation digitale de l'industrie a commencé, mais elle en est au début. Et on est très bien positionné, on est reconnu par les instances les plus grandes sur la planète sur ce qu'on fait. Et aujourd'hui, on sait qu'on est ce qu'on appelle une plateforme Internet des objets, donc IoT, dédiée à l'industrie avec des applications qui sont reconnues. On est toujours sur Issoire, et effectivement, sur Issoire, on a vécu plein d'aventures, puisque quand vous êtes une société commence à 3 et qui grandit, vous avez un problème, une crise du logement tous les 2 ans, qu'on a fini par résoudre en achetant un magnifique domaine dans la ville d'Issoire, un château de 1800 et quelques qu'on a réhabilité, un manoir, et 36 000 m² de terrain autour, qu'on va transformer petit à petit en campus, où on va héberger aussi des étudiants. On a créé un Master 2 avec les écoles auvergnates, avec l'INP, dédié à l'industrie du futur. Et voilà, notre projet, c'est effectivement de se servir d'Issoire comme base, et on reçoit des gens de tout le bassin, beaucoup de Clermont, beaucoup du sud de Clermont, et puis il y a plein de gens qui finissent par venir s'installer Issoire. Voilà, la société va bien, la société est ambitieuse, et on fait un début d'année 2021 exceptionnel.
Et cet engagement que vous avez vis-à-vis de vos clients, vous avez voulu avoir, enfin, c'était essentiel pour vous, en tout cas c'est ce qu'on ressent au travers de vos propos, vous n'avez pas voulu quitter ce bassin, vous êtes resté là, vous accueillez, vous êtes impliqué. Comment est-ce que vous le traduisez également avec vos associés dans le quotidien ?
Alors quand on crée sa société, au départ, on a une problématique d'existence, de survie, et puis quand on a la chance en fait de commencer à avoir la confiance de clients et à grandir, on prend du recul par rapport à ça. Donc nous, on est déjà sur Issoire parce que on a une collaboration avec l'agglomération de communes, le maire d'Issoire, qui est très bonne, et donc on a un projet autour de ça, faire venir des étudiants. Donc on a commencé à travailler localement, et dès qu'on a pu, on a aidé les associations culturelles et sportives à avoir un petit peu plus de budget pour faire vivre la ville et donc pour attirer aussi des employés qui trouveraient que ce bassin était sympa. Donc on a commencé par ça. Depuis quelques années, on est un fer de lance en fait, on est la société la plus grande aujourd'hui dans la transformation digitale en France et on est reconnu internationalement, donc on est devenu un peu le porte-parole de l'industrie du futur, beaucoup de contacts avec la région, on travaille très proche avec la région, aussi avec le département, et au niveau national, moi j'ai fait plusieurs fois partie de rapports ministériel ou de rapports parlementaires sur des idées pour reconstruire, relocaliser l'industrie et ainsi de suite. Donc on a une petite voix et on parle de l'Auvergne à chaque fois quand on peut. Et donc on a décidé depuis quelques années de s'investir très concrètement en prenant des postes. On a ce terme de résilience qui est apparu ces derniers temps. Tout le monde parlait de la résilience des entreprises, de la résilience des sociétés. Nous, on aime bien le terme de résilience territoriale. On pense que on a une chance aujourd'hui historique de se reconstruire un petit peu, manger autrement, vivre autrement, voyager autrement, travailler autrement avec la distance. Et donc, concrètement, nous, on agit. J'ai récupéré la présidence auvergnate du cluster des entreprises du numérique. Très concrètement, ça veut dire que sur les 250 entreprises du numérique qu'il y a dans l'Auvergne, on va essayer de les aider à se renforcer au niveau économique. C'est pas technologique ce qu'on fait, c'est vraiment comment mieux vendre, comment mieux embaucher, comment mieux s'implanter, ainsi de suite. J'ai participé en tant qu'administrateur à la création de la French Tech Clermont-Auvergne, qui est un label décerné par le gouvernement et qui permet d'identifier des pépites, alors du numérique, mais aussi de la biotech. On est très fort en Auvergne pour flécher ces entreprises auprès de la BPI et leur dire, attention, là, il y a vraiment quelque chose de très intéressant. Il va falloir les aider à grandir, il va falloir les encadrer pour que ça devienne des boîtes de taille intéressantes, internationales. Donc, on travaille là-dessus très régulièrement. On fait pas mal de mentoring. Au niveau régional, j'ai récupéré une responsabilité. Le président m'avait appelé pour me demander si on pouvait créer un consortium d'entreprises qui intégrerait le campus régional du numérique qui s'est ouvert à Charbonnières et qui a pour vocation de devenir le centre de l'écosystème du numérique en Auvergne. Donc on est impliqué là-bas, on a un bureau et on va aider en fait les PME, les ETI à se transformer, à accéder à des solutions. Voilà, et donc c'est tout cet engagement résumé en quelques-unes de nos missions. Il y en a d'autres, hein, la CCI, j'administre aussi, je suis un des administrateurs du Connecteur, un autre média qui travaille sur l'innovation. Enfin, on fait beaucoup de choses et en fait, on est assez ouvert pour participer à des réunions de réflexion là-dessus. Et je reçois régulièrement beaucoup de coups de téléphone de jeunes entrepreneurs qui viennent prendre un petit peu, flairer un peu notre expérience, on va dire, et partager pour essayer de les guider, éviter peut-être quelques erreurs que nous, on a commises et qu'on a appris. On partage beaucoup, oui.
Et comment est-ce que vos collaborateurs s'inscrivent ou s'impliquent dans cette démarche-là, si c'est le cas?
Mais oui, c'est le cas, évidemment. Moi, j'ai parlé de ce que nous, on fait, un peu la direction, Sylvain et moi, surtout sur la région. Mais nos collaborateurs sont issus beaucoup des universités locales. Et donc, on a beaucoup de collaborateurs qui donnent des cours, qui participent à quelques programmes pédagogiques dans l'enseignement supérieur. On considère que ça fait partie de leur mission. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas de prendre des congés, par exemple, pour y aller. Ils le font sur leurs heures de travail. On en a aussi qui participent à des... ou qui ont créé des associations métiers, alors sur le développement Java, le Lavage qui est dirigé par Pierre Collomb. Donc, il y a beaucoup d'implications. On aime travailler dans cet écosystème et on a la chance d'être dans un écosystème qui n'est pas petit, mais qui n'est pas grand. Et il y a très peu de concurrence. Une société comme Braincube n'a pas de concurrent direct. Donc, il est assez facile d'aller discuter avec les autres sociétés du numérique ou pas pour échanger sur des bonnes pratiques qui sont critiques pour les entreprises, comme comment mieux vendre, comment faire du marketing, comment communiquer, comment recruter, voilà, tous ces processus très, très critiques. Eh bien, ça va être facile d'ouvrir des discussions avec nos partenaires à droite et à gauche. Et on encourage nos employés, nos collaborateurs à s'inscrire à des clubs sur les ressources humaines, à des clubs sur l'intelligence artificielle, à des clubs sur le développement d'entreprise. C'est assez actif de ce côté-là, oui.
Vous parliez tout à l'heure de l'équipe de l'ASM Clermont-Auvergne. Vous êtes adhérent également de l'association de partenaires qui est à côté, entreprise ASM en mêlée. En quoi ça vous paraît important d'avoir une équipe phare déjà sur un territoire? Il y en a d'autres également, mais en tout cas, c'est sur ASM Clermont-Auvergne que vous êtes présent auprès de l'équipe.
Oui, on est un membre de ASM en mêlée depuis quelques années. Le rugby est probablement le sport qui est le plus proche en termes de valeur de la façon dont on essaie de fonctionner dans Braincube. C'est-à-dire que c'est avant tout un effort d'équipe et tout le monde peut apporter et tout le monde doit être solidaire. Et donc, on se retrouve bien dans ces valeurs-là. On est un gros sponsor de l'USI à Issoire et on est un sponsor historique de l'ASM parce qu'on a la chance de collaborer avec eux. C'est-à-dire qu'on a eu des contacts très tôt avec Jean-Marc Lhermet, qui était intéressé par ce qu'on faisait en industrie, et c'est un ingénieur, Jean-Marc, est-ce que c'était applicable, en fait, dans un milieu qui serait sportif? Et donc, on a fait de la recherche, on a fait de l'innovation, et l'ASM utilise depuis des années Braincube. On est un de leurs outils numériques qui leur permettent d'analyser la performance individuelle des joueurs, des équipes, de la concurrence, des arbitres. On étudie les comportements des arbitres, on étudie pas mal de choses. Et donc, on s'est rapproché de la communauté des partenaires, très naturellement, parce que ça nous a permis de tisser un réseau local, alors que nous, on est issoiriens. Donc, sur Issoire, on se connaît tous. Par contre, les Issoiriens connaissent moins les Clermontois. Ce genre d'organisation nous permet de rencontrer beaucoup de gens et une bonne partie des prestations de consulting qu'on a fait après sur l'amélioration de nos ventes, sur développer les managers et ainsi de suite, ce sont des entreprises adhérentes très souvent de ASM en mêlée ou d'autres, ou par rebond. Et on a découvert énormément de compétences locales, beaucoup de passion. Donc, c'est un gros connecteur, en fait, au réseau Auvergne, ASM en mêlée. Et nous, on est histoiriens, donc on va favoriser en termes de proximité, de partenariat les gens d'histoire, mais on a décidé sur Clermont-Ferrand d'offrir les trois choses qu'on aime beaucoup, c'est-à-dire faire un partenariat avec l'ASM et proposer des places à nos clients et à nos employés pour aller voir des matchs. On est gros partenaire de RepaVox depuis des années, puisque la musique est un autre univers, tout le monde n'est pas obligé d'aimer le rugby. Et puis, évidemment, aujourd'hui, il y a ce lieu culturel, la Comédie de Clermont-Ferrand qui est en train de s'ouvrir. On est partenaire depuis le départ, on espère qu'on va pouvoir l'ouvrir rapidement, puisque ces deux nouvelles scènes sont superbes. Et pour les gens qui n'aimeraient pas ou qui aimeraient quand même le rugby et la musique, ils auront aussi la chance d'aller voir des spectacles exceptionnels. Et sur Clermont, on a décidé de faire voilà, ces trois gros partenariats. Et après tout le reste, les plus petits partenariats sont pour faire vivre notre petit territoire histoire.
Alors, une dernière anecdote, Laurent, parce que je suppose que vous fourmillez de tout ce que vous pouvez partager un peu dans le monde entier avec ces entreprises que vous accompagnez, mais est-ce qu'il y en a une qui ressort au bout de ces presque 20 ans ?
Il y a une anecdote un peu emblématique. On était au début de notre histoire et on a la chance d'être contacté par la plus grande papeterie française qui est dans les Vosges, qui est à la fois la plus grande papeterie française, une des plus grandes internationales et le plus grand aussi centre de traitement d'eau polluée de France. Une station d'épuration gigantesque. Et ces gens-là sont à l'état de l'art de leur métier. Et ils nous appellent à travers un projet financé plus ou moins par l'État, par un pôle de compétitivité. Ils nous appellent en désespoir de cause en disant « De toute façon, on a un peu de budget, il faut tester des nouvelles technologies. Ils ont un problème endémique depuis 1999. » Et on est en 2008. Et donc, on nous confie ce problème. Alors, le papier se fabrique sur 10 mètres de large à 120 km/h. Et vous avez un papier journal qui fait donc 42 grammes par mètre carré. C'est quelque chose de très fragile et d'humide. Et ce papier, malheureusement, chez eux, avait tendance à se déchirer lors de la fabrication. Et à chaque fois que vous le déchirez, vous perdez 10 à 15 minutes pour redémarrer. Donc vous imaginez 5-6 déchireurs par jour, c'est 1 heure, 2 heures de perte de production. Et c'était comme ça depuis 1999. Et en fait, il nous a fallu 12 jours pour les ramener quasiment à une ou deux cases par semaine, au lieu de 6 ou 7 cases par jour. Et ça par des données. Et en fait, tout ce que les données ont ressorti étaient des choses qui étaient contre-intuitives. Donc vous vous retrouvez face à une dizaine d'ingénieurs, experts qui travaillent dans le site depuis longtemps, vous leur dites « il va falloir arrêter d'utiliser cet agent de blanchiment, il va falloir faire ci, il va falloir faire ça », ils vous disent « mais non, mais vous ne comprenez pas, c'est pas de là que viennent les problèmes ». Et on leur a dit « est-ce qu'on peut mettre en œuvre ?» On a mis en œuvre, on a vécu ce miracle, et alors après ça les a excités, parce qu'en fait on a effectivement beaucoup progressé, mais on ne comprenait pas. Et ils ont mis 3 ans pour comprendre, avec des laboratoires extérieurs, en faisant des analyses très très précises, très fines, biologiques en fait, qu'on avait identifié à travers des données, sans le savoir, des développements bactériens non soupçonnés, qui étaient la cause générique de ces problèmes. Et en fait, ils ont découvert que grâce aux données, on pouvait faire le progrès tout de suite, et on pouvait calmement prendre le temps de comprendre, plutôt que de chercher. Ils ont gagné 3 ans en fait sur ce projet-là. Ce projet était emblématique. Ces gens-là nous ont fait énormément de publicité. Ils nous ont ouvert en fait la branche papier, on va dire, chez OneCube, qui représente peut-être 30% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. On a le plus grand papetier au monde comme client, le plus grand papetier européen, le plus grand papetier sud-africain, le plus grand papetier français, le plus grand papetier allemand. On a peut-être 5 ou 6 sociétés du top 10 mondial de la papeterie qui utilisent OneCube, et on grandit là-dedans. Je suis en train de travailler avec des Asiatiques là-dessus. Donc voilà, une histoire où nous, on arrive, on n'est pas du tout expert, on a des données, quelques algorithmes, mais beaucoup d'énergie, et on a fait équipe avec ces gens-là, et c'est un de mes premiers clients. On les a démarrés en juillet 2008, et ça reste des clients que j'appellerais amis. Ils viennent très régulièrement voir des matchs à l'ASM grâce à notre partenariat.
Ça veut dire qu'Issoire est une belle ville créative où on peut faire des racines et qui est porteuse en tout cas.
Je confirme. On est bien à Issoire et on peut créer des sociétés qui offrent, je pense, des jobs vraiment très intéressants. On a beaucoup de docteurs, d'ingénieurs. Il y a des gens qui viennent de toute la France maintenant pour travailler dans BrainCube parce qu'on est reconnus, et ils viennent pour le job, le challenge professionnel. Et ils restent, je pense, pour la qualité de vie qu'on propose en Auvergne et que quand les gens découvrent, apprécient particulièrement.
Je confirme, l'Auvergnate que je suis devenue le confirme. Un immense merci Laurent Laporte pour cet échange qui a été passionnant. Vous êtes passionné, on souhaite longue vie à BrainCube et surtout, continuez à rester à l'antenne de Radio Auvergne. Nous vous retrouverons bientôt avec beaucoup de plaisir.